dimanche 14 avril 2019, pour la troisième semaine consécutive, je suis place de la République à Paris pour donner la parole aux femmes algériennes. Depuis le 16 février, des manifestations d'une grande ampleur ont eu lieu un peu partout en Algérie pour protester contre le pouvoir corrompu. Depuis, le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné, remplacé par Abdelkader Ben Salah, qui devient chef de l'État par intérim, et les élections présidentielles initialement prévues le 18 avril ont été repoussées au 4 juillet. Ces manifestations présentent trois caractéristiques majeures. Elles s'inscrivent dans la durée, sont pacifiques et sont marquées par la présence des femmes. Chaque dimanche, c'est place de la République à Paris que se réunit la diaspora algérienne pour soutenir la révolution du sourire, du nom que s'est donné ce vaste mouvement de contestation pacifique et populaire qu'on appelle également le Hirak, qui signifie « mouvement » en arabe. Ce dimanche, j'arrive vers 14h. Je fais un premier tour de la place et remarque une nette augmentation de la participation des femmes. À vue d'œil, je dirais qu'elles représentent au moins un tiers des manifestants. Depuis ma première venue, un espace dédié aux femmes s'est constitué, où l'on peut voir inscrit sur les banderoles « abrogation du code de la famille » et où les femmes viennent débattre sur différents sujets relatifs à l'égalité femmes-hommes. Voici donc le troisième volet de « Les Algériennes ont de la voix ». Dans un premier temps, j'aborde Feta, la soixantaine, qui offre une analyse de l'actualité politique.
Je suis née en 54 dans un village de Haute-Kabylie. En 57, notre village a été napalmé par l'armée française.
Le napalm, bombe incendiaire à base d'essence qui a rasé de nombreux villages pendant la guerre d'Algérie.
Ma mère était maquisarde et donc on a été carrément dans les camps de la SAS. Et mon père, qui était là depuis 46, est venu nous chercher. Je pense que le peuple algérien, à un moment donné, a compris qu'il avait été humilié, spolié par une bande de voleurs qui, depuis 62, à la guerre de libération jusqu'à aujourd'hui, les a carrément dévalisés. Ce peuple, qui a une richesse extraordinaire, n'a jamais vécu avec cette richesse. On a eu une bande de mafieux, on a eu des voleurs au pouvoir qui se sont servis dans les caisses. Et pendant ce temps-là, on a donné au peuple des raisons de se battre. On leur a mis le régionalisme, on leur a mis la religion, on leur a dit c'est les gens de l'extérieur. On a trouvé tous les faux problèmes pour les diviser et faire en sorte que ce peuple ne se fédère pas. Et là, je pense que c'est un ras-le-bol général. Ces gens-là se disent, bon, on a compris, on n'en peut plus, ça suffit, on ne peut pas aller plus bas que ce qu'on nous a mis, il va falloir bouger. Et là, je suis heureuse de voir ce peuple reprendre un petit peu sa dignité. Aujourd'hui, il y a un grand danger. Le grand danger vient de ces gens qui sont à la tête du pouvoir, ces généraux dans l'armée, et vient également des services de renseignement qui, eux, essayent justement de stabiliser le pouvoir. C'est une analyse que je vous fais. Mais de manière générale, l'armée, elle est quand même traversée par tous les corps de la société. Et je ne pense pas qu'elle laisserait faire. Ou alors ça bougerait dans un drôle de sens.
Puis je rencontre Aini, 42 ans, venue en France pour ses études.
Nous, en tout cas, la communauté algérienne en France, on est assez nombreux. On suit ça de très très près. On vit vraiment connecté avec ce qui se passe là-bas. Et de jour en jour, en fait, les choses, elles évoluent. Le problème, c'est que le gouvernement actuel, en tout cas, c'est le pseudo-gouvernement militaro-politique, est complètement autiste à la volonté du peuple. Le peuple ne veut pas faire disparaître quelques caciques, en fait. Ils veulent complètement changer, refondre la constitution. Donc, si on remet les mêmes et on recommence, de toute façon, on les a vus. Il y a des jeunes aussi du FLN. Donc, ça veut dire que ce système-là se reproduit. Ma génération, elle a vécu quand même la décennie noire. Donc je suis très très heureuse de voir cette jeune génération qui se libère. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une unité nationale qui est importante et que finalement les divisions, elles ont été beaucoup attisées, nourries. Ça fait le pain béni des dictateurs. Et je suis heureuse de voir que la société était beaucoup plus éveillée que leur gouvernement. Je pense que le mot d'ordre du peuple aujourd'hui, c'est la liberté. Et donc, comme vous le savez, l'Afrique du Nord est origine amazigh. Et amazigh veut dire homme libre. Ce peuple, depuis plus de 20 siècles, aspire à la liberté. Aujourd'hui, plus que jamais, je me pose la question pourquoi je suis partie. Donc moi, je suis arrivée jeune, étudiante. Et en fait, depuis le début de cette révolution, je me pose des questions. On fait des choix douloureux en venant en France, malgré ce qu'on peut entendre. C'est douloureux de quitter sa famille, de faire une famille si loin des siens. Moi, mes enfants, ils voient leurs grands-parents deux fois par an. D'autres, ils voient encore moins.
Thank you. J'aborde ensuite Sarah et Amel, jeunes professionnels de 30 ans, qui nous parlent de leur rapport à l'Algérie et des femmes dans l'espace public.
Nous, on est là parce qu'on a envie de rentrer chez nous, repartir chez nous, revivre chez nous, être en sécurité surtout. Juste après le terrorisme, on est venu en famille, mais je suis retournée, moi, en Algérie, sans mes parents, pour faire la fac là-bas, parce qu'il n'y a pas un pays où je me sens le mieux qu'en Algérie. Mais je suis venue faire un M2 ici parce que, voilà, c'est pas pour dénigrer mon pays. Il n'y a pas peut-être une personne ici qui aime son pays comme moi, mais on n'a pas beaucoup de choses à faire. Et on sent que l'État ne fait rien pour faire avancer. C'est-à-dire qu'une jeune fille, l'année dernière, a dû faire un jogging. Elle a été agressée parce qu'il était juste 19h. Il est bientôt 19h et on est à l'extérieur, donc c'est pour ça qu'on est venu là.
En fait, on a pas cette culture qu'une femme sorte courir tard le soir, donc peut-être c'est ça. Hein, après.
Oui, parce qu'on a été traumatisés pendant très longtemps. Par exemple, j'ai été dans une ville de l'intérieur il y a 2-3 ans, on m'a pas servi une baguette de pain parce que je ne portais pas le voile. Alors que je suis musulmane pratiquante, mais ma religion, je la pratique chez moi. Je ne suis pas obligée de porter le voile pour m'exposer. Il y a une fermeture d'esprit, mais c'est ce qui a été voulu. Là, par exemple, j'ai marché la semaine dernière à Alger. Je me suis sentie libre. Enfin, je pouvais parler, je pouvais dire ce que je voulais. On peut s'habiller comme on veut. Et les Algériens, enfin, je les ai trouvés beaux, je les ai trouvés ouverts. C'est pas l'image qu'on avait. Maintenant, c'est grâce aux réseaux sociaux. Je sais que tout ça s'est passé.
Plus tard, je rencontre Mounia, 48 ans, arrivée en France il y a 3 ans dans le cadre du regroupement familial. Mounia anime le Carré des Femmes, un espace dédié à la lutte féministe.
Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des manifestations aussi pacifiques en Algérie, vu l'historique de l'Algérie, vu la décennie noire. Je reste positive par rapport à l'issue, malgré ce qui s'est passé ce vendredi.
Qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi ?
La police a attaqué avec des gaz lacrymogènes. Ça ne s'est pas passé comme les autres vendredis, quoi. Ils pensaient leurrer les gens en mettant quelqu'un d'autre, alors que ce quelqu'un d'autre, c'est toujours le même gouvernement, quoi. Mais nous, ici, actuellement, on lutte pour l'égalité des droits. La plupart des gens nous disent que ce n'est pas le moment, mais on estime que c'est le moment parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans l'égalité des droits entre femmes et hommes en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui nous disent « mais il s'agit de l'islam, c'est charia, mais il s'agit de l'islam ». C'est ça qui revient souvent. Il faut savoir qu'il y a d'autres interprétations et donc ça ne va pas à l'encontre de l'islam non plus. Il faudrait que toute personne fasse l'effort d'aller lire le Coran avec ses propres yeux. Le Coran n'est pas contre cette égalité, au contraire. Nos pires ennemis, ce sont les femmes. Qui nous dit « mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous avons tous nos droits !» Et quand on parle d'héritage, « oui, mais ça, c'est l'islam !» Alors que ça n'existe pas en islam. Je pense qu'elle confonde de féminisme et féminisme. Nous, c'est l'égalité des droits. C'est pas fémène ou c'est pas... voilà. Nous pensons qu'il faut d'abord changer les lois pour que les mentalités changent.
Le Code de la famille regroupe les règles qui déterminent les relations familiales en Algérie. Dès sa promulgation dans les années 80, ce code qui inclut des éléments de la charia a été fortement contesté par les féministes et par la gauche. Plusieurs dispositions du Code de la famille sont en contradiction avec le principe d'égalité et de non-discrimination affirmé par l'article 132 de la Constitution. Mounia va nous expliquer plus précisément ce que dit ce Code de la famille.
La femme reste mineure toute sa vie, il ouvre toujours un tuteur pour se marier. Est-ce que c'est normal ? Moi personnellement, j'avais une amie. Les parents ont divorcé, son père il est parti, il ne savait même plus où est-ce qu'il était. Quand elle voulait se marier, ils ont demandé la présence du père. Elle avait des oncles, comme le père était vivant, eh bien non, elle n'avait pas le droit de se marier sans la présence de son père. On trouve ça quand même très grave qu'une femme n'ait pas les mêmes droits qu'un homme. C'est dans le code de la famille.
Et il y a quoi d'autre dans ce code de la famille ?
On l'appelle même le code de l'infamie. Mais écoutez, il n'y a pas d'égalité dans l'héritage. Et ça a causé énormément de tort aux femmes. On a beaucoup de témoignages, et même dans nos propres familles, de femmes qui se retrouvent à la rue à cause de ce problème d'héritage, justement.
Des femmes, par exemple, qui vivent avec leurs parents, les parents décèdent, et du coup, elles n'ont plus rien. Elles se retrouvent à la rue, c'est ça ?
Elles se retrouvent à la rue, et les frères les mettent à la rue, ils récupèrent tout. Un papa qui décède, s'il n'a pas de garçon, s'il n'a que des filles, c'est les oncles qui se mêlent, qui viennent, qui prennent. C'est comme ça.
Ça, c'est légal ?
Oui, c'est légal. Ben, c'est ça. C'est pour ça que nous voulons l'abrogation du code de la famille.
L'héritage est une notion très complexe et les articles qui définissent ces lois sont nombreux. On retiendra qu'en cas de décès d'un des parents, la fille reçoit la moitié de son frère. Qu'en cas de décès du mari sans descendance, la veuve reçoit un quart de l'héritage quand le veuf en reçoit la moitié. En cas de descendance, la veuve hérite d'un huitième quand le veuf hérite d'un sixième. Je retrouve de nouveau Feta.
Alors moi j'ai une autre interprétation, c'est que le Coran avait son utilité quand il n'y avait pas les lois. Mais je pense qu'aujourd'hui, les lois doivent se substituer au Coran. Parce que le Coran aujourd'hui ne doit pas régir nos vies. Tout peut se défaire, il n'y a rien qui est immuable. On ne peut pas garder vitam aeternam des choses qui ont été mises en pratique au Moyen-Âge parce qu'il fallait effectivement donner les moyens aux gens de s'organiser. Ça n'a plus lieu d'être. Je crois que pour moi, c'est un non-débat. Aujourd'hui, les lois sont votées à l'Assemblée nationale. On ne doit plus parler d'islam. Ce n'est pas la religion qui doit gouverner nos vies. Pour moi, la religion est une affaire privée. Et elle n'a rien à voir avec ni nos mariages, ni nos héritages, puisque ça doit évoluer avec le temps.
Et donc, qu'est-ce que vous pensez du fameux code de la famille ?
Ça a été un cadeau qui a été fait aux intégristes pendant la période noire. On leur a donné un os à ronger. L'os à ronger qu'on leur a donné, c'est les femmes. On nous a humiliés en tant que femmes algériennes.
Puis revoici Aini.
Personnellement, je suis favorable à une laïcité, hein, donc une séparation de la religion et du politique. Mais après, je suis assez réaliste. Hein, donc je pense que la religion va continuer quand même, mais il faut juste mettre le curseur là où il faut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça aille trop loin. Mais notamment le code de la famille, c'est-à-dire qu'un type peut épouser 4 femmes à la fois, ce n'est pas possible aujourd'hui. On est en 2019, c'est impossible. Alors, il y a des choses aussi qui ne sont pas liées à la religion, qui sont liées à la tradition. Hein, c'est-à-dire qu'à certains endroits, qui sont encore un peu anciens dans leur fonction, quand une femme demande l'héritage, elle est pratiquement mal vue. Après, ça, c'est aussi des choses qui vont évoluer avec le temps. C'est pas en 10 vendredis qu'on va révolutionner les choses. Donc, les choses doivent s'inscrire dans la durée, mais aussi dans une évolution culturelle. Une évolution culturelle, ça se fait pas en plusieurs week-ends. Hein.
Je fais la rencontre d'Ayette, 45 ans, arrivée avec un visa touriste il y a 15 ans. Elle nous explique les choix de son départ pour la France.
Je suis d'Annaba. Je parle de moi, hein. Je ne parle pas de toutes les filles hein, ou toutes les femmes. Quand j'étais en Algérie, il y avait des choses que je n'arrive pas à accepter, des choses qui m'oppressent, et que je n'arrive pas à exprimer en haut et fort.
Ce qui vous oppressait en Algérie ?
C'est les traditions. C'est vraiment les traditions. C'est un pays qui est resté très très longtemps fermé. Du coup, on a gardé les mauvaises habitudes, les vieilles habitudes que nos parents et nos grands-parents ils l'ont acquis par rapport à qui ? Par rapport à l'armée française aussi. Il faut dire ça la vérité. Parce qu'à l'époque, quand ma mère elle me racontait des histoires, elle habitait dans des villages. Ceux qui travaillent avec l'armée française, quand ils viennent, ils savent que cette fille, elle est jeune, ils prennent les filles, les violent. Alors ils ont eu cette habitude que la fille, elle doit rester toujours cachée. Que la fille, il ne faut pas la sortir. Si on lâche la fille sortir, elle va être violée. C'est cette mentalité pour protéger la fille, voilà. C'est pour une bonne tension, pour protéger la fille. Mais les temps changent et les filles ont besoin de liberté.
Pour Sadia, 75 ans, les femmes ont aussi leur part de responsabilité.
Je vais vous dire mon expérience. Quand j'allais en Algérie, la première fois j'avais 18 ans, les femmes me disaient « faut pas sortir ». Alors que mon mari m'a laissé sortir. Je voulais aller au marché. Ah non, je ne veux pas aller au marché. Donc, elles ont cultivé ça et ça s'est transformé de mère en fille. Je vous assure que je leur ai dit aux femmes, je dis c'est de votre faute, c'est vous qui avez cultivé ce truc. Attention, mon mari va rentrer. Attention, mon mari ne voudra pas ça. Attention, attention. Mon mari me laissait travailler. J'ai voyagé toute seule. Eh ben non. Ben, mon mari, c'est, je ne dirais pas le mot, mais ce n'est pas un homme parce qu'il laisse sa femme sortir. Et ce sont les femmes qui ont cultivé ce système de soumission, si on peut dire.
Les rapports femmes-hommes sont régis par les lois, les traditions, mais également les peurs. Quelle place les femmes veulent-elles prendre dans cette Algérie de demain ? La suite dans un prochain épisode. C'était « Les Algériennes ont de la voix ».
حقوق النسوية مازلنا ثوار